11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1, premier jour du mois de février. Elle n'a pas mangé depuis hier car elle se réserve pour la Chambleur ce week-end. Son objectif cette année, 127 crêpes en deux jours.
Je peux le faire.
La bretonne de cœur et d'estomac, Christine Béroux.
Bonjour, bonjour à tous.
En bon ch'ti gars du Nord, il ira sûrement au carnaval de Dunkerque cette année. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de se déguiser, il peut participer avec ses habits de tous les jours. Le coloré, Jérémy Lorca. Demain, c'est la journée de l'intelligence animale et c'est un peu sa journée, car oui, sur ce corps de crevette décortiqué, il y a aussi un petit cerveau brillant de bulot qui pense l'intelligence de cette émission, Ben H.
Oui, mais elle pense de la crevette, moi la queue se mange. Bonjour.
Il est antillais, pourtant il n'est pas là-bas aujourd'hui pour faire les soldes, car il préfère rester avec nous, le fidèle Mickaël qui regarde.
Bonjour, bonjour. Maintenant, si on peut discuter, je veux bien y aller là-bas.
Et celle qui ne déposera pas sa candidature pour appartenir au patrimoine de l'UNESCO, elle n'a pas besoin de ça, c'est déjà la 8e merveille du monde, la majestueuse Anne Romanoff.
Ben H, mais qui a fait une brillante première partie hier soir à mon spectacle.
Oui, merci Anne, merci
c'était,
de nous avoir donné cette place.
C'était comment de faire cette
d'avoir
première partie?
Eh ben, écoutez...
D'avoir du public, c'est
c'est tellement vrai. Écoutez, vous avez un public extraordinaire.
C'est vrai.
Extraordinaire,
ils
votre
ont
public.
Été, ils ont été
accueillants, ils ont été sympathiques.
Et vous m'avez bien chauffé la salle.
Non, c'était bien.
J'ai tout chauffé.
Ah bah, dès
j'ai
tout chauffé, Ben H, il est là. Hein.
Allez, au sommaire de cette émission, Jérémy Lorca tentera de dénoncer des clichés. À 11h30, nous recevrons l'imitateur Patrick Adler pour son premier livre, Un père et passe, paru aux éditions Le Sémaphore. Mickaël Quiroga, comme dans le livre, nous parlera des enfances difficiles. Et à partir de 11h50, ce sera Cécile Duflo, la directrice générale de l'Oxfam France, qui sera notre invitée. Ben H reviendra sur son parcours. Oui. Et Christine Béroux lui a préparé un quiz écolo.
Tout à fait.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Aujourd'hui commence le tournoi des Six Nations. Est-ce que vous aimez le rugby? Est-ce que vous allez regarder les matchs, Jérémy?
Mais j'adore le rugby.
Tu m'étonnes.
J'ai été invité à la soirée de lancement du calendrier des dieux du stade et j'ai dragué le mois de mai. Mais j'ai pas réussi. Je lui ai proposé un plaquage, mais il m'a répondu qu'il était professionnel et qu'il surveillait toujours ses arrières.
Christine?
Moi, je pense que j'aimerais bien voir un match de rugby parce qu'un match de rugby, c'est comme ma carrière d'humoriste. Voilà, avant d'arriver à un résultat, il faut faire beaucoup, beaucoup d'essais.
Merci de nous redonner le moral.
On ouais, te
elle
confirme.
Est brillante, votre carrière d'humoriste, Christine.
Oui, bah oui, je suis avec vous.
C'est pas ironique, j'espère.
Non, c'est vrai.
Ben, la carrière d'humoriste, je sais pas, mais la carrière de Fayot, ça se passe bien.
Mais pour réussir comme humoriste, souvent, il faut être Fayot, hein.
Bah ouais, c'est pour ça que je galère, moi.
Ben H,
vous me demandez ça, moi, le rugby, mais évidemment, moi je suis le mec taillé pour ce sport, enfin.
On dirait pas comme ça.
Bah non, bah, pour tout vous dire, j'ai joué 15 minutes, je suis blessé depuis 15 ans. Voilà.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Demain, c'est la Chandeleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est plus connu sous le nom de Journée internationale de l'orgasme gustatif d'Anne Romanoff.
Demain, c'est la Journée mondiale de l'intelligence animale. Alors, vous savez à quel point la cause animale me tient à cœur, donc je suis ravie que cette journée existe, sauf pour les moustiques, bande de bâtards.
Demain, c'est la Journée mondiale de l'intelligence animale, une journée où il faut être gentil avec ses ex, car l'intelligence animale concerne aussi les blaireaux.
Demain, c'est la Journée mondiale des zones humides, une journée ordinaire pour Ben H. Aujourd'hui a lieu le dépôt de candidature pour inscrire des choses au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il faut proposer des choses précieuses, belles et rares. Donc j'ai inscrit Anne Romanoff et maintenant j'attends.
T'attends qu'elle soit validée?
Non, j'attends mon augmentation.
Europe 1. Mais vous croyez qu'un petit compliment et non, c'est pas comme ça. Moi je suis sensible à la sincérité.
Mais je suis sincère.
Ouais, vachement. Ouais. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jérémy Lorca,
oui.
Christine Béroux, Ben H, Mickaël Quiroga,
yes.
Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en hôtel 4 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec
vous.
sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël qui
on
regarde.
Est toujours là, on est toujours là.
Ben H.
Je suis pas parti.
Christine Bérou.
Et oui, bonjour.
Et Jérémy Lorca.
Fidèle au poste.
Vous avez dormi cette nuit, Christine?
Alors, j'ai...
Le point Christine.
Alors, le écoutez, point sommeil.
Oui, alors on a essayé un nouveau protocole pour la faire dormir 8h.
On parle pour les gens qui écoutent pour la première fois, c'est elle parle de son bébé qui
a dit
qu'elle a âge.
On nous a conseillé de faire un truc pour qu'elle a 9 mois.
9 mois.
Et on nous a conseillé de faire un truc pour qu'elle dorme 8 heures d'affilée et ça marche.
Le taser.
C'est juste qu'elle dort de 20h à 4h du matin et après elle ne se rendort plus. C'est un vrai cauchemar.
Mais c'est quoi le nouveau truc?
En fait, il faut. Et quand elle pleure, il ne faut pas la bercer, il faut la garder dans le lit. Et il ne faut surtout pas la sortir du lit parce que sinon elle croit qu'elle a gagné. Alors en fait, il faut la rendormir sans la bouger du lit. Et elle a compris.
Et comment vous faites?
Et ben, on la laisse dans le lit, puis on la caresse.
Et tu l'attaches, quoi.
Je chante des chansons.
Oh, ça donne quoi, Christine Bérou, qui chante des chansons à 4h
du matin? Non.
Soyez sympa.
Il y a des gens qui ont des appareils.
Ça m'intéresse.
C'est la cantine de ma fille le soir. Que vos yeux demeurent ouverts quand la lune monte là-bas.
Tueuse en série.
C'est exactement là que la môme m'a dit je m'en fous, à 4h du matin je la réveille.
Et ça marche?
Bah oui, ça marche très
bien. Et à 4h du matin vous le faites aussi?
Et bah oui, sauf que là ça marche plus. Et après...
Parce que t'as cette voix là.
T'as qu'à changer de voix pour la surprendre, qu'elle croit que c'est quelqu'un d'autre.
Maman est partie. Je suis la sorcière dans la nuit. Si tu te réveilles, je vais te manger.
Allez, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Mickaël? Le jeu s'appelle comment?
Eh bien, il s'appelle le Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui sont nées au mois de février. Et aujourd'hui, comme toute la semaine, je vous propose de jouer pour un séjour de 3 nuits, détente, bien-être, évasion, l'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa, les Flamants Roses, à Cannes et en Roussillon, proche de Perpignan. 3 nuits pour 2 personnes en formule petit déjeuner avec 3 demi-journées de cure de remise en forme personne. Modelage sous affusion, bain multijet, chromothérapie, hydrojet, aquagym avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hotel-flamand-rose.com.
Classe.
Ça vous fait envie, ça?
Ah mais bah dingue, on rêve de ça.
Eh bah oui, mais c'est pas pour vous.
On est content de le faire gagner.
Alors on joue avec Étienne. Bonjour Étienne.
Bonjour toute l'équipe.
Bonjour Étienne. Étienne, vous habitez à Erguet-Gabéric en Bretagne.
C'est ça, à côté de Quimper.
Oui, à côté de Quimper et de Concarneau d'ailleurs, j'ai été jouer là-bas. Et vous êtes conducteur de travaux.
Oui, c'est ça, dans une entreprise familiale.
Et donc, vous suivez les travaux, vous dites ça va pas, comment vous faites?
Bah, c'est ça, en fait, je vais chez les potentiels clients, je leur fais un devis, et s'ils acceptent le devis, je fais le suivi de chantier après.
Et le suivi de chantier, ça consiste à dire quoi? À froncer les sourcils quand vous visitez les chantiers?
Mais en fait, nous sommes une entreprise spécialisée dans la maçonnerie et tous les travaux de façade. Et puis, donc, c'est voir si les chantiers se passent bien, faire la relation entre les ouvriers et puis les clients.
Et il y a des fois, ça se passe bien?
Est-ce que des fois, vous tenez les délais?
Tout le temps aussi.
Oh, le mytho.
Jamais le chantier est rendu en retard.
C'est vrai?
Bah, bien sûr que non, il va pas vous dire je suis tout le temps à la bourre.
Ça n'existe pas, chantier retard, c'est deux mots qui vont ensemble.
Bien sûr.
C'est comme Anne Romanoff et le sexe.
Ah ouais.
Ça va ensemble.
Hey, attendez, j'espère quand même pour son entreprise familiale qui fait plus souvent des chantiers.
C'est tout. Étienne, il s'agit de deviner des personnalités nées en février. Avec qui souhaitez-vous jouer?
Avec Christine.
Ah.
Eh bah tant pis.
Allez, concentrez-vous. Attention, top chrono.
Elle chantait comme un ouragan, c'est une princesse. La fille de Grace Kelly.
Stéphanie de Monaco.
Oui, c'est le présentateur historique de Télématin. Il avait eu un problème, il avait étranglé un de ses collaborateurs il y a un temps.
Bon,
elle chantait Sensualité. Oui, c'est un patineur. Il commente les jeux avec Nelson Montfort.
Philippe Candeloro.
Oui, c'est un acteur américain. Il a joué dans Grease. Voilà. C'est l'actrice des valseuses. Son nom, ça fait un peu le bruit que fait le chat. c'est une chanteuse d'Amérique du Sud blonde.
Oh là là là.
Bravo.
Oh là là.
Le
trois
bruit que fait
réponses.
Le chat.
Le bruit que fait alors, le chat, c'est
John Travolta, pardon. Mais
John Travolta, la fille du samedi soir. Quand même. Miu Miu, il y avait d'autres choses à dire. Elle a été la compagne de Patrick Devers, de Julien Clerc. Elle a joué dans Larguet.
La dérobade.
Ouais, juste comme,
comme
ça.
Comme si vous ne perdiez jamais.
Mais quelle échipie, cette numéro. Et alors William Lémergie, il a étranglé un collaborateur. C'est, vous citez un événement, une rumeur d'il y a 10 ans. Il y a quand même...
Parce que ça m'a vraiment marqué.
Oui, mais d'accord. Mais il est présentateur de Télématin sur France 2.
C'est ce que j'ai dit. Il a deviné.
Ouais. Non, il l'a pas deviné, William Lémergie.
Mais bon, alors, par contre, si je peux en parler avec l'huissier, c'est qu'à un moment donné, vous avez
l'huissier.
Non, mais je tiens à dire que vous avez beaucoup rigolé à un moment donné, et du coup, ça m'a fait ralentir. Et,
oui, mais c'était drôle ce que t'as dit.
Bah, c'est... enfin, trois bonnes réponses, Étienne.
Oui, je suis partie avec un handicap.
Moi, je pense. C'est surtout vous qui êtes un handicap. Étienne, je crois que c'est mal parti pour le séjour, ouais. Mais sait-on jamais, on va voir comment se débrouille Magali. Bonjour Magali.
Bonjour Anne, bonjour à tout le monde.
Bonjour Magali.
Magali. Magali, vous avez 39 ans, vous êtes femme au foyer à Roquebrune-sur-Argens.
Oui.
Vous êtes mariée depuis 2006.
Exactement, 2006, oui.
Et vous cherchez un travail depuis 7 mois.
C'est ça, exactement, vous avez tout.
Ça sent le départ.
Un travail de quoi?
Dans la communication, mmh. Ou dans l'événementiel.
Très bien. Et vous avez déjà travaillé là-dedans?
Oui.
D'accord. Bah, faut pas dire que je suis femme au foyer, il faut dire que je suis communicante.
Je suis bosse dans le marketing.
Vous êtes communicante, Magali.
Exactement, communicante, vous avez raison.
Il paraît que vous aimez bien les karaokés, mais que vous chantez mal.
Ah, bienvenue au club.
Ah, vous voyez, on pourrait en faire ensemble.
Vous pouvez nous faire un petit extrait, peut-être?
Ou peut-être. Allez-y, tant pis pour vous. De quelle chanson?
Non, mais c'est quoi votre chanson préférée, Magali?
J'aime bien I Will Survive.
Allez-y.
J'aime bien Mon Mec à Moi. I Will Survive.
Mon Mec à Moi.
Mon Mec à Moi.
Il joue avec mon cœur. Il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs. Et moi, je crois tout ce qu'il me dit.
Bon, ça va.
C'est pas si pire, c'est correct. Bon, vous jouez avec qui, Magali?
Avec Jérémy Lorca, s'il vous plaît.
Ah!
Bon,
très bien.
À mon avis, c'est jouable, hein, parce que 3 bonnes réponses, 4.
C'est Jérémy Lorca.
Il y en a 3 ou 4 à gagner.
Non.
Trois
il
réponses.
A fait 3.
Ouais, faut faire 4.
Faut faire 4.
Ouh là 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 là.
C'est très génial.
Ouais, alors okay. Attention, top chrono.
Il présente sans aucun doute. Sans aucun doute, l'animateur télé TF1. Vous passez? Ok.
Oui.
La fille Josène Balasco, actrice.
Je sais pas.
Ok. Il chante T'es où? Je suis pas là, t'es où?
Bien né.
Oui, exactement. Elle chantait Dieu m'a donné la foi. Elle est blonde.
Bye.
Ok.
Bah oui.
Il était membre du jury dans The Voice et il a fait partie de Téléphone. Il a les cheveux gris.
Robert.
Non.
L'autre.
Je sais pas.
Ok. Alors c'est un. Il a été ministre des sports.
Ophélie Winter.
Oui, Ophélie Winter. Ok. Wow. Il a été ministre des sports et il était, je crois.
Oh là là.
Douillet.
Ah, Douillet, Gong.
Ça va, Étienne?
J'ai donné les bons indices, je te jure.
Anne, si vous acceptez Douillet, il y a égalité. Hein.
Pourquoi? Maintenant, il n'y a que deux
oui,
réponses.
Oui, Douillet, j'ai dit Douillet.
Oui, bah, dit Douillet. Vous avez dit Ophélie Winter quand on vous demande Louis Bertignac, 10 minutes après.
Oui, je sais bien, mais j'étais pas en train de remonter.
Ah oui, ouais.
Bah, le temps que ça remonte, mais c'est un jeu de rapidité.
Il y a du chemin.
Oui,
hein.
Et moi, j'ai perdu du temps parce que vous.
Elle a dit, oui, elle a fait trois.
Non, le Douillet est arrivé sur le gong. Étienne, un cri de joie.
Ouais, merci.
Voilà.
Étienne, vous avez gagné un séjour de 3 nuits, détente, bien-être, évasion à l'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan. 3 nuits pour 2 personnes en formule petit déjeuner avec 3 demi-journées de cure de remise en forme par personne. Modelage sous infusion, bain multigé, chromothérapie, hydrogé, aquagym, avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hôtel-flamantrose.com.
Bravo.
Étienne.
Ouais, bah super, merci beaucoup. Merci encore à Christine.
Tu t'es battue comme une lionne. Plus ça va, plus je t'aime.
Bon, Étienne, on vous embrasse. Profitez bien de ce week-end.
Oui, bah, merci beaucoup. Et puis j'en profite pour faire un gros bisou à mes enfants, à Louisa et à Clément.
Ouais,
et
madame, comment s'appelle-t-elle?
Charline aussi, qui va être très contente.
Bon, bah, profitez bien de ce week-end avec votre chérie Étienne. Et continuez à nous écouter.
Bravo.
Magali, on vous embrasse. On se retrouve dans un mois.
Pardon, Magali.
Moi aussi, plein de gros bisous. Bravo, Étienne.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Béroux, Ben H, Mickaël qui regarde,
à tout de suite.
Et Jérémy Lorca qui nous parlera des clichés.
Yes.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël qui regarde Benach, Christine Bonjour. Et Jérémy Lauria. Yes. Demain, c'est la chambre. Oui. Est-ce que vous aimez les crêpes? Est-ce que vous allez en faire ce week-end, Christine?
Alors, à la fois oui, parce que je suis bretonne. À la fois non, parce que c'est pas vegan. À la fois oui, parce que c'est fédérateur. Mais à la fois non, parce que ma mère va encore faire la blague. Tu veux une crêpe? Super, ça tombe pile poil. Pile poil. Ok, je craque.
Pourquoi c'est pas vegan les crêpes?
Parce qu'il y a du lait et des œufs. Mais il y a des crêpes vegan qui existent et qui gagnent
mais
souvent les concours de
il
crêpes.
Il reste quoi, la farine?
Bah non, le lait. Tu peux mettre du lait d'amande, tu peux mettre. Et c'est beaucoup plus léger et moins calorique, Anne.
C'est juste. Oh oh
mais Anne a maigri, d'accord?
Oui,
et je mange pas des frites tous les midis, comme certains.
Enfin, maintenant que le casino de Paris c'est derrière, Anne, on peut se relâcher un petit peu.
Je me suis déjà un peu relâchée au cocktail hier soir.
J'ai vu ça.
On l'a vu.
Jérémy.
Ah ben moi je vais pouvoir me faire des crêpes au Nutella, même que j'ai un truc pour les faire plus vite.
Ah bon? Comment vous faites, vous, les crêpes au Nutella?
Ah bah c'est simple, je les fais sans crêpes.
Jérémy, je veux pas vous heurter,
oui,
mais il faut quand même vous dire la vérité.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur.
Vous êtes un petit peu bouboule en ce moment.
Oui, c'est vrai, Jérémy.
Non mais ça, c'est vrai.
Non mais attends. Ouais. Depuis qu'elle a perdu 4 kilos, elle se prend pour une décathlonienne. Non mais sérieux, quoi.
Non. Anne a totalement raison et je suis en train de faire du mal à ma carrière, je vous le dis. Donc,
Ta carrière, oui.
Ouais, c'est vrai en fait. En même temps, oui.
Je vous donne 2 ans pour que j'aie un César. Non, j'ai fait un super passage, machin, etc. dans un passage télé que je ne peux pas diffuser tellement je suis énorme. J'ai même plus un double menton, c'est un tiroir caisse. Tu veux de la monnaie sur 20, on te rend les pièces. Bref.
Non, là,
là,
non, plus,
non,
mais
là, je vous dire, on est
vous
vendredi.
Du sport, hein, peut-être.
Non, je peux pas. Mais on est.
Là, pourquoi vous pouvez pas faire de sport?
Bah non, non, ça prend du temps.
C'est pas motivant.
C'est les vestiaires. J'ai la piscine dans ma rue. Non, mais la piscine, c'est chiant. Ton petit slip tout moulant. T'as le nez qui coule. Tu pues le chlore.
Toi, le slip moulant, c'est que en soirée, en fait.
C'est que quand je suis avec toi. Non. Mais par contre, là, c'est le premier jour du reste de ma vie. Parce que franchement, j'ai décidé, je vais faire acide hyaluronique autour des. Pour réduire les rides. J'ai jamais fait, attention.
Ah bah tu vas maigrir du bide.
Je vais faire un blanchiment. Je vais faire un blanchiment des dents.
Ouais.
Ok.
Ça va pas enlever les kilos, ça.
Je vais perdre 10 kilos. Ensuite je vais muscler.
Tu vas te couper une jambe.
Je vais me bronzer.
Ouais.
Et je vais devenir une bombasse que vous allez crever.
Vous allez perdre 10 kilos en combien de temps, Jérémy?
Je vais essayer de faire ça en un mois.
Quoi?
Ouais.
C'est dangereux, hein.
Bah, je vais enlever les féculents, je vais. Non, ça va aller. Je suis très fort.
En fait, ta vengeance, c'est d'essayer de devenir beau, quoi.
Ouais, tout à fait. En fait, j'ai vu une vidéo d'il y a 10 ans. Je me suis dit, c'est la première fois de ma vie où je me trouvais jolie. J'ai 36 ans, je suis pas mort encore. Je vais réussir à choper.
Je ressens tellement de sincérité.
Mais oui, horrible. Moi, je veux rentrer dans un bar comme avant et les gens te regardent. Là, maintenant, on me dit, poussez-vous. Non, mais tu vois.
C'est beau. Mickaël, oui. Vous aimez les crêpes?
Bien sûr que j'aime les crêpes. Tout le monde aime les crêpes. Je veux dire, autant demander à Anne Roumanoff si elle aime le rouge.
Vous voulez dire que j'aime la couleur rouge?
Ah, vous aimez aussi la couleur?
Ben H, les crêpes?
Non, je rencontre les mêmes problèmes avec les crêpes qu'avec les femmes.
C'est-à-dire?
Très maladroit au moment de les retourner.
Oh non, mais... C'est pas possible.
Je sors.
Oui, Jérémy Lauria voulait nous parler des clichés.
Oui, déjà ça y est, on est le 1er février. Alors en tant que célibataire, on pourrait croire que je flippe, hein. Plus que 14 jours pour trouver quelqu'un. La course contre la montre est pas du tout, c'est un cliché. Cette année, j'ai décidé de positiver, de pas me prendre la tête et d'écouter en boucle une seule chanson jusqu'au 14.
J'y crois.
Et voilà, et seulement après, j'entamerai une dépression. Mais ce midi, ça va pas fort les amis. Je suis énervé et triste et d'habitude, ces deux sentiments mêlés que je les connais pour une seule raison, c'est quand je vais chez McDo pour prendre un menu à emporter, que j'arrive chez moi et que je réalise qu'il manque un burger. Ah, ça énerve, hein, ce genre de truc. Et là, c'est vrai que je suis énervé depuis 2 jours et j'aurais vraiment préféré que ce soit pour un burger. Je vous explique. Cette semaine, je devais aller jouer à Lille avec un pote humoriste qui s'appelle Kaldoun. On était de bonne humeur, on arrive à la gare, on passe le portier de sécurité. Enfin non, je passe le portier de sécurité puisque l'agent SNCF arrête Kaldoun et lui demande sa carte d'identité. Et là, je me dis, bah non, pas en 2019. Un blanc, un arabe, tu contrôles que l'arabe, c'est pas correct. D'ailleurs, qui te dit que je suis pas dangereux? C'est vexant. Et puis sois un peu intelligent. Tu demandes la carte d'identité aux deux, comme ça tu crées pas de malaise. Bref, mon pote il lui donne la carte et là l'agent lui demande d'ouvrir sa valise. Mais à ce moment-là, on entend la sonnette, ce qui veut dire qu'il nous reste 2 minutes pour prendre le train. Donc on dit, monsieur, soyez sympa, on est des gentils, on va essayer de faire rire des gens à Lille, on peut pas rater ce train. Il répond, je veux rien savoir, ouvrez votre valise. Bon, relou jusqu'au bout, mais il a le droit de le faire, c'est son job. Donc il fouille, il met tous les vêtements sur le battant de la valise sauf un caleçon qu'il pose par terre. Et là, le maniaque que je suis se révolte. Et je lui dis, non mais monsieur, pourquoi vous faites ça? C'est pas très cool en fait. quand il a un caleçon, il pourra pas le porter, ça vient de toucher le sol, c'est dégueulasse. Et là, il répond, bah si, il aura qu'à le mettre à l'envers. Et il rigole. Et tu sais, ce genre de rire qui peut vraiment t'énerver, parce que j'avoue, moi en bagarre, je suis ceinture noire de lâcheté. Mais là, j'étais debout, il était à genoux, une petite pichenette sur l'oreille, ça te démange quand même. Hein. Et là, il y a une scène improbable qui se passe, Gare du Nord, il y a une dame d'environ 60 ans qui arrive hystérique en hurlant, c'est honteux ce que vous êtes en train de faire, c'est du délit de faciès, c'est pas correct, laissez ce jeune homme, il a rien fait, laissez-le tranquille. Et nous, quand on est deux gros lâches avec mon pote, on lui dit, madame, c'est gentil, mais on n'a pas le temps de s'embrouiller, on a le train. On monte dans le wagon, moi j'étais choqué parce qu'on venait de vivre. Lui, mon pote, était très détendu, il me dit, non mais Jérém, t'inquiète, moi si j'étais contrôleur, je me contrôlerais. Bon. La dame, elle arrive à monter in extremis, elle nous rapporte que l'agent lui a dit cette phrase magique, il a qu'à assumer pour les autres. Et par les autres, il lui a expliqué qu'il parlait des terroristes. Oui, je vous laisse digérer l'info et c'était même pas une caméra cachée. Alors, assumer pour les autres. Par principe, j'ai envie de dire, bah non, chacun sa vie. Moi, je vois dans la rue un mec bourré en train de faire une chenille sur les démons de minuit, je le laisse se démerder. Attends, une chenille sur les démons de minuit, c'est hors tempo. Ne m'associez pas à ça. Mais surtout, qu'est-ce que ce caleçon vient faire là-dedans? Il a cru venger qui en posant un caleçon par terre? La prochaine étape, c'était quoi? Pierre, feuille, ciseaux? Un strip poker, peut-être? Alors, en soi, c'est bien de mettre de la sécurité dans les gares. Moi, j'adore les contrôles. C'est la seule occasion de l'année que j'ai de me faire toucher. Mais comment tu peux dire et faire des trucs pareils? Et surtout, je m'interroge, comment tu choisis les gens que t'arrêtes? Parce que c'est un peu comme les videurs de boîte de nuit. Donc, j'aimerais poser la question, c'est quoi les critères pour monter dans le train? Non, parce que si on se base sur le physique, les apparences peuvent être trompeuses. Regardez Ben H. Oui. Il a pas un physique de playboy et pourtant non. Il chope tous les soirs. Oui. Et mon pote, c'était pas un terroriste, c'était un bobo du canal Saint-Martin qui se laisse pousser la barre façon hipster, rien à voir. Alors les contrôles aux abords des trains, je pense qu'on est tous pour. Mais les gars, reprenez-vous très vite sur les méthodes et sur le recrutement de votre personnel parce que là, ça laisse franchement à désirer. Et pour finir, j'aimerais quand même rappeler le slogan de la SNCF, deux points ouvrez les guillemets, à nous de vous faire préférer le train. Voilà. J'ai rien à ajouter, merci beaucoup.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Ben H, Jérémy Lorca, Christine Mérou.
À tout de suite.
Et notre invité Patrick Adler pour son premier livre, Un père et passe, paru aux éditions Le Sémaphore.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga.
On est là.
Ben H, Christine Mérou, Jérémy Lorca. Et notre premier invité est humoriste, imitateur, chanteur après 30 ans d'une carrière bien remplie sur scène, à la télé, à la radio. Il vient nous parler de son premier livre, un roman autobiographique très touchant, Un père et pas. Je suis ravie d'accueillir Patrick Adler.
Merci. Merci Anne. Souvenir.
Bonjour Patrick Adler.
Bonjour Anne Romanoff.
Alors, c'est quand même un livre très dur, je trouve. Je sais pas si ça va.
Ah bah ça commence bien.
Voilà. Merci. Merci. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour en parler.
C'est un livre très poignant qui saisit au ventre, mais il y a des. Enfin moi, on est saisi quand on lit ça.
Oui, mais vous remarquerez qu'il n'est pas fait pour faire pleurer Margot dans les chaumières. Donc il y a toujours une petite pirouette, par exemple au moment de la crémation de mon père. J'ai dit c'est à ce moment-là juste que j'ai arrêté la clope. Donc il y a toujours une espèce de pirouette qui fait que. C'est de la résilience, hein, je veux dire, comme dirait Cyril Nick, je veux dire que d'un fait.
Il faut expliquer aux auditeurs, vous avez été un enfant battu entre 3 ans et 12 ans, mais plus que battu, maltraité. Oui. Quand on lit ce que vous racontez, c'est horrible.
Oui, mais enfin, je sais pas, parce que c'est la 6e ou 7e émission que je fais où ils me disent que c'est un livre poignant, mais un livre très très dur. Et moi, je dis pas que j'ai écrit un Astérix, mais je pensais avoir écrit un livre drôle. Et donc, je pense qu'il y a une dichotomie entre le fait que moi je me suis débarrassé du bébé, c'est le cas de le dire, et en fait, la réception des gens, parce que quand je suis passé par exemple à Télématin, ils ont dit mais ce livre est formidable, mais d'une dureté. Et moi, je m'accrochais à la chaise.
Il est très bien écrit, par contre, parce qu'on sent qu'il est vraiment écrit avec vos tripes.
Ouais. Enfin, je sais pas. Parce qu'effectivement, j'ai tout misé, entre guillemets, sur le style.
Vous êtes le fruit d'une relation adultère, parce que votre père était marié une première fois. Ouais. Il a été avec votre mère. Il part à la guerre.
Ouais, il part faire la guerre d'Algérie. Pendant 3 ans et demi, elle n'a pas de nouvelles, mais entre-temps, elle lui a quand même écrit parce qu'il a fait l'acte manqué suprême, c'est-à-dire de lui laisser son adresse en Bretagne. Et donc, la bonne femme chope la lettre et elle apprend...
La
donc,
femme, c'est-à-dire sa vraie femme, la femme de votre père.
Elle apprend qu'il est père.
Et votre père revient. Entre-temps, sa femme a appris que vous existiez. Elle divorce, qui se faisait comme... Elle aurait pu lui pardonner.
Comme mon père était de famille bourgeoise et ma mère une roturière, que dirait Berne. Le divorce se passe non pas à l'amiable, mais enfin en tout cas discrètement, parce que mon grand-père était quand même commissaire de police de la ville de Dinard.
Vous dites que la première jour où vous avez rencontré votre père, vous avez 3 ans. Le contact n'est pas passé.
Un contact n'est pas passé parce qu'il m'a regardé. Et si vous voulez, moi, j'ai eu la chance, comme dirait Dolto, de naître dans un champ d'amour, puisque j'étais entre ma mère, ma tante et ma grand-mère. Donc c'était absolument.
J'étais le petit roi.
J'étais le petit roi. Je foutais le bordel. Mais enfin, j'étais un enfant. Assez actif, assez saoulant d'ailleurs, parce que je demandais toujours plus d'apprendre plus et plus encore. Et puis après est arrivé ce père qui a demandé à ce que j'ai les points sur la table, etc.
Une éducation rigoureuse.
Très rigoureuse, il était militaire, il était extrêmement. Il aurait pu être rigoureux dans sa vie privée aussi, ça aurait été sympa, mais il était extrêmement rigoureux, rigoriste, voire. C'était un tyran, quoi. Et à partir de ce moment-là, ça a été folcoche et brasse-bouillon. Ça a été une relation de...
C'est vipère au point, quoi.
C'est vipère au point, 2018. Sauf que, comme me disait ma mère, qui, elle, vivait son destin de femme, donc elle n'avait pas l'intention de partir, puisque de toute façon, en plus de ça, c'est lui qui a amené l'argent au foyer. Elle vivait son destin de femme et elle me disait toujours, mais pourquoi tu... Et moi, j'étais...
Pourquoi quoi ?
Pourquoi tu l'excites comme ça ? Pourquoi ? Quand je n'avais pas ma raclée quotidienne, j'étais pas, on aurait dit qu'il me manquait quelque chose. J'étais dans ce rapport-là. Tous les jours, c'était...
Une espèce de rapport
moi.
De force. Quoi.
C'est un rapport de force.
Mais un jour, vous avez failli le tuer. Vous lui avez planté une fourchette. Enfin,
je n'ai pas tué, mais c'est vrai qu'il a été surpris.
Quand même, vous avez
devoir...
pris une fourchette et vous lui avez planté dans la main. Quoi.
Ouais.
C'était trop. Là, vous aviez 12 ans quand vous avez fait ça.
J'avais 12 ans et c'est vrai que je détestais les oignons. Et il m'a mis un très gros oignon de pot-au-feu.
Dans votre assiette ?
Dans mon assiette. Et là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pris la fourchette, comme nous avions des fourchettes en argent. Et je lui ai planté. Ma mère était horrifiée et tout. Et voilà, et s'en suivit.
Et ce qui vous a sauvé, c'est finalement un professeur qui a remarqué vos coups et qui a dénoncé...
Les professeurs, et j'en sais quelque chose pour avoir été prof moi-même pendant 9 ans, les professeurs sont des gens... extrêmement empathique, affable et compassionnel. J'avais 12 ans. En plus, j'étais déjà une année d'avance, donc j'étais plutôt un bon, voire un très bon élève. Et je suis passé au tableau et il a vu l'état de mes mains, puis il a vu que j'étais éborgné. Enfin, j'avais la totale. Et il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous allez encore me raconter que vous êtes tombé ? Et je dis, non. Et il y a un élève qui s'est levé qui a dit, c'est encore son père, monsieur. Et comme lui, il était au courant, mais bon, il m'en avait jamais parlé. Il a demandé au chef de classe de tenir la classe. Il m'a conduit chez la directrice qui a convoqué le commissariat. Et le commissariat est allé faire une enquête sociale. Et 8 jours après, je gagnais mon combat. C'est-à-dire qu'il était, il allait passer en jugement. Par la suite, il a été déchu de ses droits paternels et a fait de la prison, mais qu'avec sursis.
Et il a été condamné à combien de...
8 mois de tôle avec sursis.
Et ma mère aussi, il a admis qu'il avait fait jamais. Et votre mère aussi a été condamnée pour non-assistance à personne en danger.
Ce qui est absolument fou, parce que là, ça a été ma plus grande tristesse, parce que elle était, bon, c'est vrai qu'elle était très faible, je veux dire, elle jouait son destin de femme et en même temps. Elle était incapable de réagir. Souvent, elle lui disait.
Donc, à l'époque, on n'était pas tellement attentif aux enfants qu'ils soient condamnés. C'est que c'était vraiment très, très grave, ces maltraitances.
Oui, Et après, donc j'ai été.
Donc, après, vous n'avez jamais
placé en foyer. Ah, ben, après, c'était fini. J'étais placé en foyer.
Donc, à 12 ans, vous étiez sauvé de ce père.
13 ans, j'étais. Et d'ailleurs, quand les enfants du foyer partaient chez leurs parents, moi, je demandais à rester au foyer. Donc, j'ai passé de 12 ans et demi, 13 ans, enfin, oui, 13 ans, puisque je suis né en avril, 13 ans jusqu'à 18 ans en foyer.
Non, mais ce qui est magnifique dans votre parcours, si je peux me permettre, c'est que du coup, bah, vous faites une carrière, vous êtes là, etc. Et la force, en fait, d'aller de l'avant et de se dire, ben, l'essentiel, c'est pas d'où je viens, mais c'est où je veux aller.
Toi qui te plains de tes parents, toi, Jérémy, hein ?
J'ai peur de rien. C'est vrai que j'ai peur de rien. J'ai eu beaucoup d'épreuves et notamment ces derniers temps, par les amis qui sont décédés ou des choses très douloureuses dans ma vie personnelle. Je rebondis toujours.
Il faut.
Mais c'est compliqué. La contrepartie, c'est que je n'ai pas fait d'enfant et je ne suis pas père. Et a priori, je suis pas prêt de l'être. Mais c'est ça. Je veux dire, la contrepartie, c'est quand même la solitude et le caractère un peu lonesome cowboy à la Lucky Luke que j'ai.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Patrick Adler. Il va nous parler de son premier livre, Un père et pas, un témoignage assez poignant, on peut pas dire autrement, par vos éditions Sémaphore, sur une enfance maltraitée. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, oui. Ben H, Christine Béroux, Jérémy Lorca,
yes.
Et notre invité Patrick Adler avec ce livre. Votre père avait lui-même des rapports difficiles avec son propre père, j'imagine. On ne vient pas comme ça, violence.
Non, je pense que c'est un garçon qui a été extrêmement couvé toute sa vie par sa mère, qui était fait. Je vais pas l'excuser, mais ma mère, elle avait trouvé un type dans mon genre, c'est-à-dire plutôt un littéraire. Il est parti à la guerre, il est revenu complètement changé.
Et ça n'avait plus rien. Vous pensez que c'est les traumatismes de la guerre d'Algérie?
Ah oui, moi je pense vraiment, parce que ma mère l'ayant connu avant.
Vous dites le Gérard romantique, littéraire, doux et charmeur, un Gérard nouveau l'avait supplanté, autoritaire, cassant, pragmatique, pressé, toujours pressé. Je garde de lui ce pas rapide, cadencé, cette aptitude au sprint, ce sens rapide des décisions à prendre, cette grande énergie dans l'accomplissement des tâches.
Ouais. Bien écrit.
Mickaël Quiroga, des choses à vous dire, Patrick Adler?
Alors, bah oui, je voulais parler des enfances un petit peu difficiles. Je profite de la présence de Patrick Adler, que je salue au passage, hein, pour aborder le sujet. Puisqu'il est venu nous voir pour nous présenter son livre Un père et passe. Alors Patrick Adler, humoriste, imitateur, metteur en scène, meneur de revue, présentateur. Pour parler de votre ouvrage, il est parti enfin. C'est la première phrase de votre livre. Ça calme direct. Vous parlez de votre papa. Il est parti enfin. Cette première phrase est identique à la première phrase du mémo de Castaner quand il a viré Alexandre Benalla. Il est parti enfin. En écrivant ça, vous parlez de celui qui vous a mis au monde, alors que Castaner parle de celui qui emmerde le monde. Alors, vous avez surmonté tout ça grâce à l'humour. Entre autres, hein, c'est le directeur des éditions du Sémaphore qui a écrit dans la postface de votre livre que l'humour est un talent qui vous octroie la popularité au sens premier du terme. Alors, à l'école ou au bistrot, peut-être, mais au commissariat, je vous le recommande pas. Moi, c'est au commissariat que j'ai appris qu'on pouvait rire de tout, mais alors, pas avec tout le monde. Je sais pas si c'est le stress de leur métier qui veut ça, ou si c'est parce que le jeu de scène est très limité par les menottes, mais en tout cas, l'humour passe moins bien. Parce que bon, les enfances difficiles, vous n'êtes pas le seul, Patrick, si je peux me permettre, pour vous donner un exemple. Ouais. Moi, chez moi, on n'a jamais mangé de pain frais, chez ma mère, faut le savoir, parce qu'il fallait toujours finir le pain de la veille. Vous voyez, moi, ma mère, elle a horreur du gâchis, donc tous les jours, elle sortait acheter du pain. Les anciens connaissent bien ça. Et puis, elle rentrait, elle mettait le pain frais dans le placard, et puis elle nous sortait le pain de la veille, tout mou. Et nous, on devait se taper le pain de la veille. Et puis, le lendemain, bah, le pain du jour, c'était devenu le pain de la veille. Enfin, vous voyez, le cauchemar. Moi, ça me rendait dingue, parce que je pouvais pas m'empêcher de penser qu'il aurait suffi qu'on fasse l'impasse une fois sur le pain de la veille pour repartir sur une vie entière de pain frais. Vous voyez, comme quoi, c'est bête. Moi aussi, j'ai eu un beau-père qui avait la baffe facile, hein, lui, pour l'éducation, il comptait sur ce que les pédopsychiatres appellent le réflexe mémoire de l'enfant. Vous savez, c'est une baffe, un souvenir, une baffe, un souvenir.
Enfin,
baffe,
vous un souvenir. Aussi, vous êtes pris des pains.
Voilà, mais moi, j'ai jamais osé le raconter, hein, sans doute ma timidité et la commotion cérébrale. Parce que la règle numéro un pour raconter des trucs, c'est qu'il faut s'en rappeler. Mais qui n'a pas eu des problèmes avec son père? Anthony Delon avec Alain, Guillaume Depardieu avec Gérard, Marine Le Pen avec son papa. Vous vous rendez compte, elle est patronne du parti d'extrême droite et elle a un vieux père encore plus à l'extrême qu'elle. Chez les Le Pen, vous n'imaginez pas comme c'est dur quand on passe pour la gauchiste de la famille. Patrick Adler, vous nous racontez 10 ans de maltraitance quand même, mais vous avez eu la pudeur d'attendre que votre géniteur ait fermé les yeux et qu'il ait quitté cette terre avant d'écrire votre livre. Pour ma part, je recommande à tous et à toutes la lecture de Un père et passe, un roman autobiographique dans lequel la sensibilité le dispute à l'humour, un roman dans lequel vous réussissez la prouesse de nous faire passer quand même un bon moment avec vos sales quarts d'heure. Alors merci beaucoup.
Merci à vous. Ça aussi c'est bien écrit.
Mais bien sûr.
Ça marche bien, hein. Mais je vous écoute assez régulièrement, je suis assez scotché parfois par des belles chroniques.
Ouais, mais je suis pas là tous les jours.
Merci Patrick Adler d'être passé nous voir. On rappelle votre premier livre, Un père et passe, qu'on vous recommande aux éditions Sémaphore. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est Cécile Duflo, la directrice générale d'Oxfam, qui sera notre invitée. Bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Béroux, Jérémy Lorca et notre invité qui a été le vent de fraîcheur du gouvernement héros. Qu'elle se baigne dans la Seine ou qu'elle se confronte à Manuel Valls, il est souvent arrivé à cette verte de voir rouge, toujours du côté des plus fragiles. Aujourd'hui, elle dirige l'ONG Oxfam. Elle est également à l'initiative de l'affaire du siècle, procès qui promet de s'inscrire dans l'histoire. Et si elle est écologiste, on espère que ce matin, elle n'économisera pas son énergie. La brillante et inusable Cécile Duflo est avec nous ce matin. Ouais. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Anne Romanoff.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes actuellement donc la directrice d'Oxfam France, la branche française de l'ONG internationale Oxfam, qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté.
C'est ça.
Vous avez arrêté la politique.
Ah oui, il y a un an et demi maintenant.
Et vous vous sentez
presque
mieux?
Presque 2 ans. Je me sens la même, mais il faut des temps différents dans sa vie. Mais si vous me permettez, il n'y a pas qu'Oxfam qui a lancé l'affaire du siècle. Il y a aussi Greenpeace, Notre Affaire à Tous, et puis la Fondation pour la Nature et l'Homme.
Mais vous y êtes quand même partie prenante là-dedans.
Oui, exactement.
Qui a eu cette idée de faire un procès Expliquez aux gens d'ailleurs ce que c'est l'affaire du siècle.
Alors, l'affaire du siècle, c'est la volonté de déposer un recours contre l'État pour inaction climatique. C'est-à-dire au nom des citoyens, de nos quatre organisations, de dire... Écoutez, en fait, là maintenant, on sait ce qui est devant nous. La crise climatique, on en voit déjà les conséquences. Donc, on a l'obligation d'agir. Et l'État ne met pas en œuvre les actions qu'il devrait faire pour faire face à cette crise, mais aussi tout simplement ce à quoi il s'est engagé, notamment à Paris, pendant la grande conférence de Paris, il y a 3 ans. L'État français a pris des engagements qui sont pas tenus. Donc, on va aller devant un tribunal pour obliger l'État à agir.
C'est non-assistance à personne en danger ou c'est crime contre l'humanité ?
Ah bah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, c'est deux qualificatifs pénals, c'est-à-dire ce seraient des délits ou des crimes qui relèvent de la justice pénale. Aujourd'hui, en France, pour attaquer l'État, il faut aller dans un tribunal spécial qu'on appelle le tribunal administratif. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en est pas encore à la phase du recours. Parce que, avant d'attaquer l'État, il faut lui écrire poliment, ce que nous avons fait il y a un peu plus d'un mois, au Premier ministre, en lui disant « Bonjour, on envisage de faire un recours contre vous, donc avant... »
Il a répondu
on vous indique. Et non, il n'a pas répondu.
Mais il a peut-être d'autres choses à faire avec les gilets jaunes.
Et bien là, il lui reste 15 jours, donc il a intérêt de se grouiller.
C'est une menace.
Non, c'est
un message à Edouard.
Pas du tout, mais oui, allô Edouard, ici Cécile. L'affaire du siècle, t'as écrit. Mais plus sérieusement, oui, parce que ce sujet-là, c'est pas une question d'ONG, c'est même pas une question de 2 millions, c'est une question d'avenir. Enfin, c'est une question, vous l'avez dit, cette question de crime contre l'humanité ou mise en danger de la vie d'autrui, en fait, on touche un peu à ça, parce qu'on sait très bien aujourd'hui quelles vont être les conséquences sur la vie de nos enfants. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est à la fois la mobilisation des collectifs de YouTubeurs qui ont beaucoup d'audience auprès des jeunes. C'est un média. C'est très bien d'écouter la radio. Moi, j'aime beaucoup écouter la radio, mais il y a plein de gens qui ont d'autres systèmes ou relais d'information, mais aussi des jeunes. Ce qui se passe en ce moment en Suisse, ce qui s'est passé en Belgique avec 30 000 jeunes, ce qui va se passer en France le 15 mars, parce qu'il y a une grande mobilisation lycéenne et étudiante. Et c'est logique, parce que eux, quand on leur parle de 2050, si vous avez 70 ans, 2050, vous dites c'est bien sympa. Mais bon. Il y a peu de chances que je sois encore là.
Je garde mon diesel. Hein.
Voilà. Quand vous dites pourquoi il ne se passe rien, peut-être qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en vrai, les conséquences les plus dramatiques, elles vont être pour les enfants de 10 ans, les ados de 15 ans, les jeunes de 20 ans. Eux, ils vont vivre les étés caniculaires à 50 degrés, ils vont vivre la baisse de rendement agricole, ils vont vivre les tempêtes, etc. Et donc, je les comprends quand ils, comme Greta, la jeune suédoise, ils interpellent les dirigeants ultra-violemment en disant « Vous êtes irresponsables, vous êtes en train de nous pourrir la vie.
Vous dites les gens, mais c'est pas forcément les gens. Je veux dire, si on parle je prends un exemple au hasard, le plastique, par exemple. Où on nous dit qu'on utilise beaucoup de plastique. Moi, personnellement, je veux l'eau qui est dans le plastique. J'ai jamais demandé à ce qu'il y ait du plastique autour.
Une gourde.
C'est peut-être un problème qu'il faut voir avec les industriels, en fait, qui veulent nous en vendre à tout prix.
Et ouais. Ça, là-dessus, vous avez raison.
Il y a de l'économie derrière.
Parce que moi, et vous me le mettez dans une écuelle, je la bois dans l'écuelle, la flotte.
Ah bon ? Vous savez faire comme les chats ?
Je me suis entraîné au cas où il n'y a plus de plastique.
Vous avez raison, il y a déjà des solutions alternatives. C'est-à-dire qu'en vrai, on peut arrêter les bouteilles en plastique.
Ça serait bien.
Ça s'appelle une gourde. Même pas besoin d'une écuelle. Hein. Une gourde avec un bouchon, un truc en métal. Ou
donc
même...
l'affaire du siècle. La gourde, c'est pas des gens en fait, hein, c'est des objets, on est d'accord.
Exactement.
D'accord. Je voulais être sûr.
Et là où vous avez raison, sur il y a de l'économie derrière et il y a des intérêts, bien sûr. Quand vous consommez des choses que vous jetez, que vous en rachetez, pour ceux qui produisent ces objets qui sont jetables, c'est plus rentable. Et donc on a favorisé, on a même fait inventer des besoins. Je vais vous donner un exemple. Enfin, aujourd'hui, on peut acheter des lingettes pour tout et n'importe quoi. Pendant des années et des années, on a utilisé éventuellement des produits. Mais des chiffons, c'est-à-dire des tissus qui étaient usagés pour leur usage. Et ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'utiliser ces fibres végétales, les jeter à la poubelle avec tout ce que ça veut dire en termes de traitement. Donc en gros, si on doit agir chacun, parce qu'on vous dit il faut prenez-vous en main chacun, c'est vrai, chacun peut changer son mode de vie, mais il faut aussi que la société soit plus organisée. Je suis venue vous voir en ayant mangé une compote que j'ai achetée à la boulangerie. Et je me suis retrouvée dans le métro avec ma compote, enfin avec le pot de ma compote, et je pouvais en faire quoi ? Le jeter à la poubelle. Et je me disais, tiens, il y a des distributeurs sur les quais, et bien est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des consignes? C'est-à-dire qu'en gros, on achèterait chez le boulanger sa compote dans un pot qu'on remettrait dans une machine. Il y a des distributeurs sur lesquels il peut bien y avoir une consigne. Et ça a existé pendant des années, ce système de consigne. On achetait des bouteilles de limonade et puis en plus...
Mais moi, j'allais même dans les poubelles au parc Monceau chercher des... parce que c'était remboursé.
Exactement.
Quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, on gagnait 50 centimes et après, on s'achetait des bonbons.
Exactement.
Et on les ramenait. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'on est passé de « on vous paye vos bouteilles vides » à « on vous les paye plus » et en plus, si vous ne nous les donnez pas, vous êtes des salauds. À quel moment ça a basculé comme ça?
Je pense que quand même, quand on regardera l'histoire de notre humanité, avec un peu de recul, on se dira « à un moment, ils ont quand même complètement fondu un boulon ». C'est-à-dire que le plastique, par exemple, ça vient du pétrole. Le pétrole, ça met des dizaines de milliers d'années à se former. Et c'est génial. Avec du plastique, vous pouvez faire des prothèses, remplacer une hanche, une articulation et refaire marcher des gens qui ne marchaient plus. Donc c'est quand même un produit formidable. Il faut des milliers d'années pour le fabriquer et on peut faire des trucs géniaux. Et ben on le crame dans des avions. À un moment,
mais vous les fabriquez avec quoi les avions?
Ben, vous avez, moi il y a une histoire. Après je pense pas du tout que on va.
Il faut qu'on fasse des pauses, Cécile.
D'accord. Ouais, bah, avec moi vous êtes mal barré.
Bah, je sais. Depuis tout à l'heure je cherche un créneau pour lancer la pub.
C'est pour la pub.
Oui.
Ça dépend pour quelle pub c'est. Parce que je vais faire la grève sinon.
Oh là là. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invitée Cécile Duflot, directrice de Générale Oxfam France. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël qui regarde Ben H, Christine Béroux, Jérémy Lorca et notre invitée Cécile Duflot qui a abandonné la politique. Vous faites de la politique autrement quelque part?
Bah, je suis toujours engagée, ça c'est sûr.
Vous savez que j'ai 4 tonnes de questions, j'ai pas pu en poser une seule depuis.
Donc je vais vous répondre très vite maintenant, promis. Genre deux phrases. Donc voilà. Oui, je suis toujours engagée, mais je pense que ça fait partie de moi. Mais c'est une autre façon d'agir, oui. Mais c'est une
façon... ça fait trois phrases. Ça fait trois, stop.
L'Oxfam a fait beaucoup parler d'elle, Cécile Duflot, avec ce rapport qui a été relayé. 26 personnes concentrent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Est-ce que vous auriez leur adresse?
Ah bah oui, il y avait leur nom même en couverture de Libération. Donc ils sont très, très identifiés. Mais quand on y réfléchit, il y a quelque chose d'un peu absurde dans ce système. Mais c'est la suite de ce qu'on disait. On a fait acheter aux gens des choses dont ils n'avaient pas besoin pour gagner de l'argent qui s'est accumulé entre les mains de quelques-uns. Quand même, quand on y réfléchit, ce système est un système qui marche un peu sur la tête. J'ai entendu que Bruno Le Maire avait dit lui-même qu'on était à l'extrême limite du capitalisme, etc. C'est très bien, mais maintenant, il faut mettre de la redistribution. Parce que la question, ce n'est pas seulement de le constater, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça.
Cécile Duflot, aux États-Unis, justement, tous les milliardaires ont des fondations très actives sur le terrain. Pourquoi on n'a pas la même chose en France? On n'a pas assez de milliardaires ou pas assez de milliardaires généreux?
Bah, je crois qu'il y a une culture de la philanthropie, comme on dit aux États-Unis, qui est moins forte. Mais même aux États-Unis, la question de savoir comment on taxe ces fortunes qui sont considérables, c'est une question qui se pose.
Vous trouvez, Cécile Duflot, qu'Emmanuel Macron en fait assez pour lutter contre les inégalités, à part nous indiquer comment utiliser le passage piéton et se payer une campagne européenne aux frais du contribuable?
Ben non, mais il a contribué à les accroître. On l'avait dit dans un rapport il y a un peu plus d'un an, en disant que les choix fiscaux, notamment quand on supprime l'ISF, quand on supprime la flat tax et qu'on enlève de l'argent en baissant l'APL, par exemple, aux plus pauvres, en fait, on accroît la pauvreté des plus pauvres et la richesse des plus riches. Et que c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous avez évoqué les gilets jaunes. En vrai, on peut se dire qu'il y a quand même un terreau qui n'était pas absurde, enfin, que les gens ont compris ce qui était en train de se passer.
Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, Emmanuel Macron, Cécile Duflot, maintenant?
Mais je crois que là, tout le monde doit être conscient que cette question des inégalités, avec la crise climatique, c'est les deux sujets majeurs de déstabilisation de nos sociétés. Donc il faut y faire face simultanément et avec la même détermination. Et pour lutter contre les inégalités, c'est la redistribution. C'est vraiment, c'est pas une fatalité, ni la pauvreté, ni les inégalités. C'est des choix politiques, c'est des choix fiscaux. Vous savez, aux États-Unis, pendant des années et des années, la tranche la plus élevée d'impôt sur le revenu, c'était 70%. Et même 85%, je crois, sous Roosevelt. Et bien maintenant, on est à en moyenne 38%. Donc évidemment, c'est plus du tout la même redistribution possible.
Humainement, est-ce que vous comprenez que quand les gens qui gagnent énormément d'argent peuvent être agacés d'en donner autant avec les impôts, qu'ils trouvent que c'est vraiment trop trop taxé?
Trop taxé.
Mais non, mais...
C'est intéressant tes questions de fond, Jérémy.
Bah oui, mais c'est vrai qu'on tape toujours sur les gens en disant ouais, ils redistribuent pas, c'est honteux, etc. Mais quand on a fait un succès, on a bien gagné sa vie, etc. Et qu'on voit qu'on donnait autant d'argent.
Alors, le problème, c'est qu'en général, ces ultra-milliardaires, ils le sont pour une grande partie d'entre eux parce qu'ils sont héritiers ou parce qu'ils ont bénéficié de monopoles avec une complaisance des États. Donc, pas du tout, c'est pas des gens qui ont eu une idée de génie tout seul et qui ont tout réussi. Amazon, si Jeff Bezos est si riche, c'est parce qu'il ne paye pas ses impôts. c'est-à-dire qui ne payent pas les impôts d'Amazon, qui pourtant roulent sur les routes que vous payez avec vos impôts. Mmh. Donc, en vrai, la question de comment ces fortunes sont constituées, quand on y réfléchit et qu'on les regarde, ça souffre discussion sur ces dégénies qui ont gagné tout seuls. Ce n'est pas vraiment vrai, déjà pour commencer. Et deuxièmement, quel modèle de société on veut ? Moi, je ne considère pas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire de l'espèce humaine, on n'est pas une espèce très, qui a beaucoup d'avantages biologiques. Vous n'avez pas, ni vous ni moi.
Merci.
On ne court pas très vite. On n'a pas de carapace. On ne sait pas grimper aux arbres. Et pourquoi on a survécu et pourquoi on a progressé ? Par la coopération. C'est-à-dire qu'on s'est organisé à plusieurs pour chasser un bison, pour dire les choses un peu trivialement. Et on a utilisé notre intelligence qu'on a développée. Mais du coup, depuis un certain nombre d'années, on a rompu avec ça. C'est-à-dire qu'on a rendu notre société très déconnectée de la nature, de la capacité à ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut donner sur une planète aux ressources limitées. Et deuxièmement, on a accru les inégalités entre les individus. Et donc, le modèle de société qu'on veut, celui qui va bien aussi à l'espèce humaine, c'est pas un modèle justement où il y a des méga, méga riches. En plus, entre nous, à ce niveau de fortune... En fait, ils n'ont même pas les moyens de le dépenser. Ils ont juste les moyens de faire prospérer leur argent. C'est tout. Ils n'ont même pas les moyens de le dépenser pour leur propre plaisir, on va dire. Et surtout, cette idée du ruissellement, c'est-à-dire que plus les riches sont riches, plus ça dégouline, c'est faux. Ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est même le contraire.
On se met en bas et on attend, il ne se passe rien.
Voilà. Il y a qu'à voir ce qui se passe sur la redistribution des dividendes qui, elles, ont augmenté dans une proportion incroyable. Quoi, ils sont à 80% de reversement. Il y a quelques années, c'était 30 ou 40% seulement. Quoi.
Ça, c'est le cas. Et surtout, si on regarde, c'est financé, notamment en France, qui est le deuxième pays record dans la distribution de dividendes, en partie par le CICE, qui était, comme son nom l'indique, normalement prévu pour créer de l'emploi. Donc, en fait, l'argent qui a été dégagé dans ces entreprises, au lieu d'être favorable à augmenter les salaires ou à recruter, a servi à augmenter les dividendes. Et bien ça, c'est une décision politique. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait tout seul. C'est une décision politique. Et donc, si on a pris celle-là, on peut en prendre une autre.
Et faisons la pause, Cécile Dufour. Pouvez-vous annoncer la publicité ?
Vous voulez me faire faire ça à moi ?
Oui.
Alors, j'annonce la publicité, mais sans dire si je suis d'accord avec ce que va dire la publicité.
D'accord. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France et à l'origine de ce mouvement, l'affaire du ciel.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Ben H,
yes.
Christine Béraud, bonjour. Jérémy Lorgan, notre invitée, Cécile Duflo, toujours aussi pétulante, en forme.
Moins que vous.
Oh, c'est gentil, mais
bah oui.
Mais vous avez une énergie quand même incroyable. Moi, je suis scotchée de ça.
En fait, je crois beaucoup à ce que
vous faites.
Oui, je crois beaucoup à ce que je fais. Je suis contente de me lever le matin et pour le coup, chacun comprend pas parfois les autres, mais moi, je comprendrais pas des gens qui trouveraient ça super qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue et d'autres qui aient 110 milliards d'euros sur leur compte. En fait, voilà.
Cécile Duflo, à 37 ans, votre vie change. Hein, vous êtes nommée ministre de l'égalité des territoires et du logement. Ça a été une expérience. Et après, vous partez parce que vous n'êtes pas d'accord avec Manuel Valls.
Non, je ne suis pas d'accord avec la politique qui a été choisie après les municipales. C'est un truc de vieux maintenant, mais aux municipales de 2014... La majorité dans laquelle je faisais partie est très violemment sanctionnée. Et comme j'étais déjà un peu en désaccord avec ce qui se passait, je pense que la réponse est pas politique n'est pas la bonne. Donc ce n'est pas juste que j'avais mes règles ou que j'avais un problème personnel avec Manuel Valls. C'est un vrai désaccord politique. Je le dis en sourire, mais avec un peu de rage, parce que ça a été beaucoup interprété justement comme quelque chose de personnel, ce que ça n'était pas. Et que c'est sûrement pour le coup beaucoup parce que j'étais une femme et que c'est plus facile de considérer qu'une femme a des humeurs. Vraiment.
Et il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit « je reste dans la place, même si ça ne me convient pas ». Parce que vous avez quand même fait des choses, vous avez fait l'encadrement des loyers, vous avez fait la loi du flot, dont vous êtes très fière.
Ah si, je me suis
Est-ce
beaucoup posé la question.
Est-ce que vous n'êtes pas dit « je reste 2 ans de plus et je vais arriver à faire d'autres choses »
Je me suis beaucoup, beaucoup posé la question. C'était un choix très difficile. Ce n'est pas un choix que j'ai fait de gaieté de cœur, ni simplement. Mais le problème, c'est que quand vous êtes ministre, vous êtes comptable de l'ensemble de la politique qui est menée. Et donc, il aurait fallu, justement, par exemple, que j'explique que le CICE, c'était formidable, que la manière dont on intervenait dans tel ou tel domaine, avec les modes d'expression qui étaient celui du Premier ministre à l'époque, c'était bien. Ou ensuite que la déchéance de nationalité, ça pouvait se comprendre. Et ça, c'était pas possible.
Ben H a des choses à vous dire, Cécile Duflo.
Oui, Cécile Duflo. Je suis ravi de vous rencontrer ce midi et je vous le dis très sincèrement. Je suis vraiment ravi et je me l'explique pas trop. Parce que faut que je vous l'avoue, je suis pas un énorme fan des hommes et femmes politiques en général. Rien de personnel, hein, mais personne n'aime être cocu. Et comme c'est souvent le cas, j'ai appris à me protéger. J'ai le droit de vote depuis 12 ans et il faut le dire, hein, les politiques et les Françaises, c'est même plus de l'infidélité, c'est du libertinage à ce niveau-là. Mais vous, je sais pas, c'est différent. Vous avez ce petit quelque chose en plus que la plupart n'ont pas. Vous savez, ce truc-là, j'ai le mot sur le bout de la langue, là, les convictions, c'est ça. Voilà, c'est tout bête, hein, mais ça court pas les couloirs de l'Assemblée, ce truc-là, a priori. Le plus souvent, on tombe sur l'opportuniste, hein, ce qu'on appelle en politique le fameux pragmatisme. Mais pas vous, Cécile Duflot, quitte même à quitter un poste gouvernemental, là où tant d'autres les acceptent et s'y accrochent coûte que coûte. Non pas par conviction, mais par pragmatisme. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais à venir avec des convictions, hein, dans le gouvernement de François Hollande, par exemple, hein, c'est comme venir avec un col roulé dans un club échangiste. Hein, ça met un peu de matière, mais dans le fond, ça sert à rien. Pourtant, objectivement, et sans parti pris, vos combats pour le climat, le logement, contre les inégalités, par exemple, ils sont parfaitement louables. Elles relèvent même d'une certaine évidence, ne serait-ce que pour la survie de l'espèce, hein, tout simplement. Oui, mais non. Bah peut-être parce que vous êtes tout ce qu'ils ne sont pas finalement, hein, une femme jeune, indépendante, moderne, à la parole libre, parfois trop libre à leur goût. Du coup, bah ça donne des échanges qui sont pas constructifs du tout. Bah quand vous dites il faut sauver les ours polaires, ils vous répondent bah OK Cécile, mais c'est quoi ce jean en Conseil des ministres? Pas constructif. Et puis quand vous dites il y a une crise écologique, on va droit dans le mur, là ils vous répondent mais c'est très bien ça Cécile, mais on en parle de cette petite robe à fleurs ma Cécile. Non, mais pourquoi finalement ressasser tout ça Cécile Duflot? Parce que la politique, bah pour vous c'est du passé, vous l'avez dit, hein. Loin de vous ce grand spectacle pourtant qui vous passionne, hein, ce grand spectacle qui vous habite depuis toujours et dans lequel, je n'en doute pas, vous reprendrez tôt ou tard votre rôle. Alors prévenez-moi ce jour-là, Cécile Duflot, vous l'aurez compris, je serai le premier à payer ma place.
Oui, ça c'est trop gentil. Ouais.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Mérou, Jérémy Lorquet et notre invitée Cécile Duflot. Qu'est-ce qu'il y a Cécile Duflot maintenant?
Je me suis demandé si vous alliez encore me demander d'annoncer la pub.
Oui, bah, je vous le demande. Et bien, c'est une petite pause, on se retrouve dans quelques instants.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Bérou, Jérémy Lorquet et notre invitée Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Cécile Duflot, il y a eu le mouvement Balance ton porc, on avait beaucoup glosé à l'époque sur votre robe et puis il y a eu des sifflements, enfin c'était assez odieux ce que vous avez dû vivre. Et maintenant, vous pensez que ça ne pourrait plus arriver, ce genre de choses? Les mentalités ont changé quand même.
Alors, la robe à l'Assemblée, non, mais il se passe bien sûr d'autres choses. C'est un combat qui n'est pas terminé.
Mais qui a avancé quand même, on peut le dire.
Qui a avancé, et je pense qu'il a avancé aussi dans la tête des filles. Ce que je veux dire, c'est que la grande force du mouvement MeToo, c'est que toutes les jeunes femmes se sont dit « Ah bah, en fait, il n'y a pas que moi à qui ça arrive. » Alors que notre génération, enfin, je vous inclus avec moi, vous faisiez cet apprentissage un peu toute seule. On n'en parlait pas de façon publique.
Et quand quelque chose arrivait, on le mettait sous le tapis, en fait.
On se disait que voilà, faut faire avec. Ça faisait partie du truc. Moi, je me souviens très très bien, hein, dans un de mes premiers boulots, j'étais dans un bureau d'études et ils avaient à l'époque du super matériel et donc ils avaient fait un montage avec mon visage à un film porno. En vrai, ça arriverait aujourd'hui, ça ferait un énorme scandale. À l'époque, juste, je me suis dit que j'étais pas très ouverte d'esprit parce que j'étais ultra choquée. Et le seul moyen que j'ai trouvé de les faire arrêter, c'est de venir avec mon mec de l'époque qui faisait 1m95, qui faisait du hockey pour les impressionner. Donc, c'est-à-dire de me protéger des mecs par un autre mec. Et je me dis quand même, j'avais été élevée dans une famille plutôt féministe, mais voilà, je subissais comme plein de nanas. Et avec la même chose, quand vous rentrez, pourquoi? C'est aussi bien parce que je pense que beaucoup d'hommes et de garçons ont compris ce que vivent les femmes. T'as aucun mec qui me rentre dans le métro en regardant vaguement pour se dire s'il y a une nana qui risque de lui toucher la bite. Ben.
Et c'est dommage.
Je suis pas sûre, parce que c'est marrant de le faire en blaguant, je suis sûre, je vous regarde vous, hein, je suis sûre que ça vous arriverait, vous seriez hyper mal, comme toutes les nanas
ça
à qui ça arrive.
Ça dépend qui. Non. Ça m'arrive pas, hein, ça m'est jamais arrivé d'ailleurs.
Ben oui, ça vous arrive pas, ça vous est jamais arrivé. Ouais. Et en revanche, je pense qu'il y a aucune femme à qui ça ne soit pas arrivé, en gros, un jour ou l'autre, ou d'avoir le doute, parce que c'est souvent ça aussi. Il y a une autre chose que je comprends, c'est que les hommes des fois se sentent mal à l'aise, parce que du coup on a le sentiment que c'est toutes les femmes qui deviennent victimes de les hommes, alors que je suis certaine que plein d'hommes n'ont jamais fait ça et ça ne leur a même jamais traversé l'esprit.
Ah, moi si, mais je demande la permission d'abord.
Oui, mais c'est pas du ça,
mais
rien
tu vois,
à voir.
Rien que ça, si je peux me permettre, c'est que là elle est en train de parler d'un problème moi qui me touche, parce que j'ai beaucoup subi des attouchements dans le métro, et en fait tu la laisses pas s'exprimer parce qu'en fait toi tu connais pas, et du coup tu fais des blagues, ouais. Alors que c'est primordial de parler de ça à la radio en fait, et de la laisser s'exprimer sur le sujet. C'est un vrai problème qu'on subit tout le temps, voilà. Je sais pas, mesdames, dans le public, Anne, et en fait, on en a marre, en fait. Et voilà, donc je vous prends la parole.
Moi, il y a une histoire qui m'a touchée beaucoup, je vais vous le dire, parce qu'elle m'a vraiment touchée. C'est une dame d'une soixantaine d'années, un peu plus peut-être, qui m'a parlé en me disant, moi ça m'est arrivé dans un ascenseur il n'y a pas longtemps. Je dis, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Elle me dit, bah, vous avez vu l'âge que j'ai? Enfin, ça fait quoi si je dis la vieille qui, etc. Et donc, elle avait accepté deux choses. Un, que ça arrivait, et deux, qu'en plus, elle pouvait même rien dire parce qu'on allait dire que c'était une vieille et qu'elle fantasmait. Et donc, l'assignation, enfin, le poids qui existe sur les femmes pour parler et pour oser le dire, il est très fort. Moi, je vois encore aujourd'hui chez des jeunes femmes qui n'osent pas le dire parce qu'elles se disent « Ah, j'ai pas envie de faire d'histoire, j'ai pas envie qu'on en parle, j'ai pas envie qu'on me ramène à ça, etc. » Donc, oui, bien sûr qu'il faut en parler tout le temps, mais je comprends aussi que les hommes soient mal à l'aise parce que d'abord, ils savent pas ce que ça veut dire dans leur chair. Quand on l'a jamais vécu, en fait, je crois qu'on comprend pas. Ça fait rigoler, ouais, on se dit, ah bah oui, si, il y aura une jolie fille. Non, c'est pas ça, c'est tu rentres le soir, t'es fatigué, ou tu rentres chez toi, t'enlèves ton manteau et tu vois une tache sur ton manteau, ouais. Tu comprends pas, et puis ensuite tu comprends. Et ben c'est ultra dégoûtant.
C'est
en fait.
Glauque.
Ouais.
C'est
ben, sauf glauque. Que ça, c'est des milliers de femmes. Et que quand moi, ça arrive à une de mes filles, en fait, ça me rend dingue. Et je sais pas comment faire pour la protéger. Je pense que le seul moyen, c'est justement d'en parler, c'est l'éducation, et c'est que des hommes, ça j'y tiens beaucoup, réagissent à la place des femmes. Quand en réunion, il y a un mec qui fait une remarque désagréable, si c'est un autre mec qui le corrige, c'est très reposant. En plus, ça le rend super populaire, je tiens à dire, aux hommes qui nous écoutent. Franchement, vous gagnerez 25 points de vie avec toutes vos collègues, avec vos amis, votre famille, quand vous oserez faire ça. Parce qu'on sait à quel point c'est aussi difficile pour un homme de s'exclure du club des mecs qui font ha 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 ha. Voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment important. Parce que, pour le coup, ça apaisera la société durablement.
Alors, attendez, je voudrais juste dire un truc parce que je ne voudrais pas non plus passer pour le gros macho de service line.
Non, vous n'êtes pas gros.
Ni laisser penser que je prends ça à la légère. C'est juste que si je le prends comme ça, c'est que c'est quand même aussi une émission d'humour. Je suis aussi là pour dédramatiser le truc et que, en tout cas, moi, c'est pas sur ma planète. Vous voyez, c'est pas dans ma galaxie d'aller toucher les fesses des filles. C'est pour ça que je le prends comme ça à la légère, entre guillemets. Mais si ça arrivait devant moi, comptez sur moi. La tâche, c'est pas sur votre manteau qu'elle serait, c'est sur sa tête. Je vous le dis.
Béraud a des questions à vous poser, Cécile.
Ah oui, c'est à ce moment-là que je ramène le débat vers le bas. Voilà, je suis l'instant ludique de l'émission. Alors, voyez-le comme une thérapie parce que ça va être un exercice où il va falloir faire des réponses courtes parce que c'est une série de mini-quiz. D'accord. Alors, voici le quiz. Vous recyclez, vous triez ou vous jetez. Les actions d'Emmanuel Macron. Vous recyclez, vous triez, vous jetez.
Bah, je recycle.
Donc, il y a quand même du bon.
Bah, faut que ça change.
Ah oui, d'accord. Vos anciens amis de l'Europe Écologie Les Verts. Ok.
Vous recyclez, vous jetez ou vous triez?
Bah, ça dépend. Je peux trier?
Ah bah oui, vous pouvez trier.
Je trie, alors.
D'accord. Vous gardez qui?
Je garde qui?
Oui.
Monsieur de Rugy.
Il faut vraiment que je réponde? Moi aussi, je vais répondre juste, j'en ai un, parce que c'est mon ami, c'est David Cormand. Mais c'est mon ami.
David?
On peut être David Cormand, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Mais c'est mon ami. Mais sinon, voilà, d'accord. Je trie.
L'énergie nucléaire?
Ah bah, je jette.
Uh-huh. Mais votre frère travaille
oui.
Dans l'énergie nucléaire. Comment ça se passe les repas de famille? Vous mettez...
Ah non, il y a des fois on évite, et puis il y a des fois on parle. Mais moi je voulais surtout pas, j'étais connue un peu avant qu'il trouve du travail, et j'ai eu très peur que...
Ça lui nuise.
Oui, parce qu'on porte le même nom, donc j'étais vraiment... Mais je crois que les gens ne s'imaginent pas trop, donc voilà.
Alors, les rêves et les espoirs que vous aviez à vos débuts?
C'est quel début?
Bah, quand vous avez commencé, quand vous avez nagé dans la Seine.
Ah, d'accord.
Cette Cécile-là.
Okay. Cette Cécile-là.
Vous recyclez, vous triez ou vous jetez?
Ah, bah alors, je les garde. J'ai toujours les mêmes.
D'accord. La perspective d'être un jour de nouveau au gouvernement? Vous gardez?
Ah, j'en sais. Franchement, je...
Vous
là
êtes,
où je suis allée.
Vous êtes très jeune, Cécile Duflo.
Non. Je suis quasiment pré-ménopausée maintenant.
Vous êtes encore comestible pour Yann Moix. Vous êtes encore jeune.
Ça, je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit.
Eh bien,
bon
justement,
signe.
La transition est toute faite, puisque maintenant, vous devez répondre sauver le monde ou trouver le grand amour. Attention.
Oh mon Dieu.
Les politiques feraient bien de s'y mettre sérieusement.
Sauver le monde.
D'accord. Nicolas Hulot y a malheureusement renoncé.
Ouh, c'est chaud, votre truc. Je crois qu'il.
Je pensais pas que c'est clivant. C'est un quiz pour rigoler.
Mais c'est. Non. Bah, non, je peux pas dire qu'il a renoncé à sauver le monde ni qu'il a renoncé à trouver
d'accord.
Le grand amour.
C'est pas faute de passer beaucoup de temps à communiquer sur Internet. Sauver le monde ou rencontrer le grand amour?
Sauver le monde. Là, franchement, le Make Our Planet Great Again, il est un peu coincé ici, là.
Emmanuel Macron a réussi à le faire.
De quoi?
Sauver le monde ou trouver le grand amour?
Bah, trouver le grand amour, je pense.
Il a pas sauvé le monde. Ah, je suis naïve.
Not yet.
Vous le souhaitez à tout le monde.
Trouver le grand amour.
Vous y avez renoncé depuis longtemps.
Ni l'un ni l'autre.
C'est le principal projet de la plupart des chroniqueurs de cette émission.
Sauver le monde.
Ouais, moi, je veux juste sauver le monde. Hein. J'ai un problème.
Mais bien sûr, on veut tous sauver le monde.
Merci Cécile Duflo d'avoir été notre invitée, c'était un plaisir. Les gens qui voudraient signer la pétition d'Oxfam, comment ils font ?
www.l'affairedusiècle.net.
L'affairedusiècle.net pour signer. Vous avez 2 millions sans mes signatures si tous nos auditeurs signent.
On aimerait bien aller encore. Ben oui, vous avez combien d'auditeurs ?
Énormément.
Ah ben voilà, je vais regarder alors exactement s'il y en a eu plus après l'émission.
Alors www.oxfam.net.
Non, non, l'affairedusiècle.net.
Ah, www.l'affairedusiècle.net. Merci voilà. Cécile Duflo d'être passée nous voir.
Merci beaucoup.
Je vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès lundi à 11h. Passez un excellent week-end à l'écoute d'Europe 1.